avec nous par téléphone Aurélien Barrault, astrophysicien, spécialiste des trous noirs, lui aussi. Bonjour Aurélien Barrault.
Bonjour.
Alors d'abord, une réaction à cette disparition.
Bah écoutez, chaque être humain est unique, mais certains sont quand même un peu plus uniques que les autres, donc on ne peut évidemment qu'être triste.
Et dans quel domaine, alors pour rentrer dans la physique des choses, dans quel domaine Stephen Hawking a fait des avancées scientifiques majeures ?
Oui, alors il est évidemment très connu pour cette fameuse évaporation des trous noirs qui donne lieu à ce qu'on appelle le rayonnement de Hawking, d'avoir finalement compris que les trous noirs ne sont pas aussi noirs qu'on le pensait et que les petits trous noirs peuvent même être très lumineux, mais ce ne sont pas ses seules découvertes. Il a aussi beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les singularités, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que notre théorie de la gravitation, qu'on appelle la relativité générale d'Einstein, était en certains lieux pathologique et qu'en fait ces pathologies étaient même assez récurrentes, assez fréquentes et inévitables dans certaines circonstances, qui est très important pour comprendre la structure de l'espace-temps. Il avait aussi montré que l'air des trous noirs ne peut qu'augmenter lors de leur rencontre, leur coalescence, leur fusion, et c'est d'ailleurs quelque chose qui a été récemment vérifié expérimentalement par la très belle mesure des ondes gravitationnelles. Et puis en effet, en cosmologie, donc sur l'étude de l'univers lui-même, il a également obtenu des résultats fondamentaux et a posé des conjectures très visionnaires. Par exemple, la possibilité que l'univers ait émergé d'un état initial qui serait dépourvu de temps. Ça, c'est une idée qu'il a proposée avec Hartle et qui est aujourd'hui encore considérée avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'étonnement, finalement.
Christophe Galfard, sur son apport scientifique, là aussi, qu'est-ce qu'on doit retenir, alors, selon vous, puis on posera la question à Nathalie Deruel ensuite.
Bah, il y a à peu près tout ce qu'a dit Aurélien Barrault à l'instant, c'est-à-dire que si on se replace au niveau des années 1960, au moment où Stephen terminait sa thèse, à l'époque, il y avait deux grandes théories, comme on a un petit peu aujourd'hui, sauf qu'elles ne se parlaient pas. Une théorie du très grand, qu'on appelle la relativité d'Einstein, la relativité générale, qui consiste à regarder un petit peu l'aspect gravitation du monde. Et puis une théorie du très petit, qui était la physique quantique. La plupart des scientifiques de l'époque, des chercheurs en physique théorique, étaient surtout sur la physique quantique, qui nous ouvrait d'autres portes du monde, en gros, et qui nous permettait de comprendre la physique des particules, qui ont donné pléthore de prix Nobel dans les années 70. Mais Stephen s'intéressait depuis le départ, depuis qu'il était tout petit, la chose qui l'intéressait le plus, c'était qu'un esprit humain, en particulier le sien, puisse comprendre l'origine de notre univers. Si on arrivait une seconde à voir ça, ça aurait été extraordinaire. Toute sa carrière a été faite en ce sens-là, et ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'a précisé à la fin Aurélien Barrault, c'est qu'il a réussi. Dans le sens où il a travaillé sur les trous noirs dans les années 70, parce qu'en gros, des trous noirs, il y en a partout dans notre univers. C'est pas très compliqué. Enfin, c'est compliqué, mais il y en a partout, et c'est des objets sur lesquels on peut faire des expériences de pensée relativement simples avec le recul qu'on a aujourd'hui. À l'époque, c'était pas simple, mais aujourd'hui, ça l'est. Et grâce à ça, il a réussi dans les années, en 1980, à être le premier humain dans l'histoire de l'humanité à offrir une formule mathématique correspondant à l'origine de notre univers. C'est pas forcément la bonne, c'est pas forcément la seule, mais c'est la première fois que ça a été fait. En 1982, ça s'appelle, en gros, sa théorie, c'est que l'univers n'avait pas de bord. Ça s'appelait comme ça.
Je vous propose de l'écouter, justement, au sujet de la naissance de l'univers.
Il n'y avait rien avant le Big Bang. J'adopte une approche euclidienne de la gravité quantique pour décrire le commencement de l'univers. Dans l'approche euclidienne, l'histoire de l'univers dans la perspective du temps imaginaire est une surface curve à quatre dimensions, comme la surface de la Terre, mais avec deux dimensions supplémentaires. On peut considérer que le temps imaginaire et le temps réel commencent au pôle sud, qui est un point régulier de l'espace-temps où les lois de la physique s'appliquent. Il n'y a rien au sud du pôle sud, donc il n'y avait rien avant le Big Bang.
Nathalie Deruel, un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre de la voix de Stephen Hawking.
Sur sa voix ou sur le...
Sur les propos qu'il tient,
sur
là.
Sur ses propos. C'était une idée tout à fait intéressante qu'il a eue sur la cosmologie et qui a fait beaucoup de bruit et qu'on discute encore beaucoup et qui fait toujours débat. Mais à mon avis, sa contribution la plus importante, c'est... Le rayonnement de Hawking. Dans les années 70, à l'époque où on commençait à bien comprendre les trous noirs, à l'époque où réconcilier mécanique quantique et gravitation se posaient de façon cruciale, il y a eu tout un débat et qui tournait autour de ce théorème mathématique qu'il avait prouvé, comme quoi l'air des trous noirs, leur surface, ne pouvait qu'augmenter quand ils interagissaient. Et à cette époque-là, il y avait deux écoles un peu concurrentes, celle de Cambridge-Oxford autour de Penrose et Stephen Hawking, et celle de John Wheeler à Princeton. Moi, j'étais dans l'école de Princeton.
Alors bon.
Ensuite, je suis allée à Cambridge. Et il y avait tout un débat et pour savoir comment comprendre cette R qui augmentait. À Princeton, on appelait ça la masse irréductible, mais c'était la même chose. Et Jacob Bekenstein, qui était de Princeton, avait eu l'idée qu'il avait soumise à John Wheeler que le fait que cette R augmentait, ça ressemblait à l'entropie. C'est-à-dire cette grandeur de thermodynamique qui ne peut qu'augmenter, le désordre augmente toujours. Et il y a eu une école en 1972 aux Ouches, l'école des Ouches près de Chamonix est célèbre dans le monde entier, fondée par Cécile de Witt. Et cette année-là, s'étaient retrouvés tous les grands noms de l'époque, qui étaient tous jeunes, y compris Stephen Hawking, qui ont essayé de comprendre ça. Pendant 2 ans, il y a eu un blocage. Parce que d'un côté, cet air devait augmenter, comme c'est une entropie qui augmentait. Mais si c'est de la thermodynamique, il doit y avoir une température. Et quand un four rayonne, et à une température, il rayonne. Or, un trou noir est noir, il ne rayonne rien. Et c'est Stephen Hawking qui a débloqué la situation en disant, comme vous le disiez tout à l'heure, eh bien oui, les trous noirs rayonnent. Et ça fait un tout tout à fait cohérent. Et ça, c'est sa contribution, je pense, la plus importante.
Une question.